on en jase.
Boulevard 102.1
avec Jeff Fortin et Pascal CV.
Émission On en jase. La meilleure façon de s'informer sur ce qui se passe à Québec, au Québec, en politique, également en sport. Durant les derniers Jeux olympiques, on a suivi avec attention tous les médaillés et les matchs du Canada en hockey masculin, les matchs en hockey féminin. Également, à la météo, c'est moins 7 degrés présentement, c'est généralement ensoleillé. Demain, moins 8 degrés avec de la neige. On parle d'une accumulation de 2 cm par endroit. Et de la neige également pour jeudi avec moins 2 degrés. On en entend parler depuis énormément de temps. Le moratoire à Lévis sur les constructions, environ les deux tiers de la ville, les entrepreneurs ne peuvent plus construire. Et là, voilà qu'il y a des poursuites judiciaires qui devraient s'entamer contre la ville de Lévis. Les gens tenteraient d'aller chercher un montant quand même assez important de 30 millions de dollars. Et pour en parler avec nous, on a Benoît Forget-Giasson, conseiller du district de Saint-Rédempteur pour Lévis Force 10, le parti politique qui était au pouvoir lorsque le moratoire a été enclenché. Monsieur Forget-Giasson, merci beaucoup pour votre disponibilité ce midi.
Merci de nous recevoir, M. Fortin.
Ça fait plaisir. Monsieur Forget-Giasson, est-ce qu'on avoue enfin que Gilles Lehoulier a mal géré le développement à Lévis pour en arriver là?
Je pense pas que de dire là, que M. Lehoulier a pu mal gérer là, serait avisé de ma part. Moi, je pense qu'il y a eu un développement là, rapide qui a eu lieu à Lévis. On en est très heureux, évidemment. Ça nous a permis de développer la ville, pas seulement d'un point de vue immobilier, mais de ces nombreux parcs. Hein, c'est 250 parcs à Lévis, espaces verts. C'est pratiquement... Je ne parlerai pas de record parce qu'on ne parle pas de palmarès, mais c'est une qualité de vie à Lévis qui s'est développée à travers les années. Et puis là, ben, c'est certain qu'aujourd'hui, on fait face à des défis en lien avec le réseau routier, les eaux usées, etc. Donc, on adresse ça là, depuis 2024 avec le moratoire. Mais c'est un leg avec beaucoup de bons coups qui a été fait dans les dernières années. Puis maintenant, ben, on regarde en avant et on s'assure de développer la ville intelligemment.
Oui, je sais qu'on veut regarder en avant, mais quand même, mon collègue Olivier Lemieux de Radio-Canada fait un excellent travail. Et puis là, on sait qu'en 2021, l'administration a été avisée que l'usine allait devenir justement à pleine capacité, l'usine de traitement des eaux. En 2024, on a eu le directeur des affaires juridiques, Simon Roberge-Vallière, qui a dit à la ville de Lévis qu'on ne pouvait plus développer, qu'on était à pleine capacité. Donc, moi, je ne peux pas faire autrement que voir du laxisme du côté de Lévis Force 10.
Je comprends. Merci pour la chronologie des événements.
Là, ça fait plaisir.
En 2020... en 2024, là, la vie juridique nous avait été adressée de ce qu'on comprend, qui a été rendu public là, dans les dernières heures. Heureusement, ben, le moratoire a été mis en place, d'ailleurs appuyé par les collègues de Repensons Lévis à ce moment-là. Donc, c'était unanime à Lévis là, de mettre en place ce moratoire-là. Et puis, c'est l'outil, c'est un outil très, très intéressant dont on dispose actuellement. Et ce que les gens nous demandent, c'est de prendre un pas de recul sur le développement à Lévis et puis de le planifier. Et c'est ce qu'on fait actuellement. On prend le temps. Le moratoire est un passage obligé qui n'est pas sans difficulté, vous comprendrez. Par contre, ben, c'est des mois et des années, là, peut-être deux à trois années devant nous qui vont nous permettre de revoir notre schéma d'aménagement, revoir les hauteurs, revoir les zonages à certains endroits de la ville. Et c'est ce que les gens s'attendent de nous. Donc moi, je comme conseiller de Saint-Rédempteur et membre du comité exécutif, ben, je vais avoir l'opportunité de collaborer avec la direction générale, la direction de l'urbanisme, à faire en sorte que notre ville se développe comme les citoyens peuvent l'espérer, c'est-à-dire harmonieusement avec les usines d'eau. Mais il n'y a pas juste ça. Il y a les services de sport et loisirs pour les familles. Il y a les routes, évidemment, routes des rivières, la 20 qui fait SOS à Lévis. Il y a beaucoup de choses là, qui sont derrière, qui vont permettre d'être adressées pendant le moratoire. Et je pense qu'il faut le voir de cette façon-là, plutôt que de peut-être remettre en cause ce qui a pu être fait par le passé.
Il y a des gens qui vivaient à Lévis à ce moment-là qui ont pas mal fait état de certaines choses qui les déplaisaient, mais il y a des gens qui se réveillent puis qui voient les nouvelles en ce moment qui font « Mais voyons donc, pourquoi est-ce qu'on n'avait aucune idée? » Est-ce que c'était caché?
Écoutez, moi, j'ai été élu en novembre dernier, donc je pourrais pas parler au nom de mes collègues là, qui étaient là par le passé. J'ai confiance en les gens qui étaient sur le, qui ont reçu des informations par le passé, que ce soit le maire ou les membres du comité exécutif. Il y a certaines décisions, il faut comprendre que dans une ville, il y a certaines décisions qui restent à la hauteur du maire, d'autres qui vont au comité exécutif, donc qui passent par le conseil de ville. Ça dépend des décisions. Si le comité exécutif, à ce moment-là, a cru bon là, que l'information qui était importante à être partagée le soit ou non, ben il faut en prendre acte, évidemment. Mais moi, de ce que je comprends, par le passé, ce qui a été pris comme décision, ben aujourd'hui, ça nous permet de prendre le temps de pause que les citoyens demandent en lien avec le moratoire. Et il ne faut pas passer sous silence aussi que dès 2021, l'administration des Forces 10 avait déjà débuté des investissements en ce qui a trait les usines d'eau et le traitement des eaux usées. Donc, il faut quand même s'assurer là, que les citoyens de Lévis le sachent, là, que les actions avaient été entreprises dès 2021 dans ce sens-là. Et là, sont en vitesse grand V. Là, on accélère ces investissements-là en ce moment là, pour plus de 500 millions. C'est beaucoup de sous.
Oui, ben c'est sûr que quand on se fait dire en 2021 que l'usine est full, t'as comme pas le choix d'investir. Là, on s'est fait mis devant le fait accompli. Mais concentrons-nous sur le présent et le futur comme vous voulez qu'on le fasse pour les 2-3 prochaines minutes. Craignez-vous que la ville perde en cours, soit obligé de donner 30 millions de dollars et fasse des coupures drastiques? Parce que je regarde au dernier budget, un autre beau cadeau de Gilles Lehaulier, 13,9 millions de trous budgétaires. Et là, on est obligé de fermer des patinoires extérieures. On est obligé de diminuer dans notre plan d'infrastructure. On est obligé de mettre en pause le paiement comptant sur la dette. C'est vraiment là, des impacts non négligeables pour la ville de Lévis.
Oui. Donc, c'est certain là, que d'un point de vue financier, il n'y a pas d'impact direct du moratoire actuellement. Là. C'est les habitations, là, on parle de 2000 par année en 25, en 26, en 27. C'est des permis qui avaient déjà été octroyés. Donc, les revenus de la ville là, en ce qui a trait à ce développement-là n'est pas impacté actuellement.
Oui, n'empêche qu'avec l'avis juridique de Simon Roberge-Vallière, le directeur des affaires juridiques, en 2024, mettre sur pause des permis qui avaient été accordés pour 25, 26, 27, vous risquez de payer les villes en justice. Là.
Comme vous l'avez dit, là, comme c'est des dossiers qui sont judiciarisés en ce moment, je vais me garder de commenter là, les dossiers qui pourraient se retrouver devant la cour. C'est certain que notre rôle d'élu, ben, c'est d'avoir un œil aguerri, là, un œil averti, je veux dire, sur le dossier. S'il y a des sommes à mettre dans les prochains mois, prochaines années, dans une réserve en vue de potentiels règlements judiciaires, on a ce rôle-là à jouer. La ville, depuis les dernières années, comme vous avez fait référence au règne de M. Lehaulier, avait des surplus, des réserves qui se sont remplouées pendant chacune de ces années-là. Donc, c'est des sommes là, qui, au besoin, pourraient être utilisées là, s'il y a des règlements à intervenir avec des promoteurs. Donc, j'ai confiance qu'on sera en mesure de boucler d'éventuels budgets dans ce sens-là. Puis on a déjà commencé, comme vous l'avez dit, avant Noël, à réduire des dépenses. Les citoyens nous demandaient ça aussi. On le fait actuellement. Donc, on réduit certaines dépenses. De notre côté, les Forces 10, on parle de diversification de revenus, d'utilisateurs-payeurs. On attend des nouvelles de l'administration du maire Blainey à ce sujet-là. On aimerait pouvoir diversifier nos revenus autrement que taxer les citoyens et compter uniquement sur la levée du moratoire. On parle d'une équipe ici du maire qui, aujourd'hui, au conseil de ville, va déposer là, un projet de un avis de proposition dans une idée de levée sélective du moratoire. Moi, ça m'inquiète. Okay? Les citoyens ne s'attendent pas à une levée du moratoire en 2026. Si on attend la levée du moratoire seulement comme une nouvelle source de revenus, ben, je ne pense pas que ce soit la meilleure avenue, car on a besoin de prendre le temps de penser à notre développement et le lever trop rapidement, comme certains le voudraient, ben, c'est se mettre à risque de retomber dans le même problème dans 2, 3 ou 4 ans. Donc, on n'est pas pour ça.
Il y a des nouvelles qui sortent encore comme quoi la ville avait été probablement mise au courant, qu'il allait avoir des poursuites. Ça vient de sortir sur Radio-Canada dans les dernières minutes. Mais méchant début de mandat pour Stephen Blainey. Comment est-ce qu'on s'en sort pour la suite des choses pour M. Blainey à ramasser des pots cassés comme ça?
La question se pose à M. Blainey. écoutez, moi, je suis conseiller de mon district, je suis membre du comité exécutif, donc beaucoup de dossiers qui sont sur sur la table à dessin. On travaille fort actuellement. Moi, j'offre mon soutien à l'administration Blainey pour collaborer, être proactif pour trouver des solutions à tout ça. Mais c'est certain que le maire en campagne s'est engagé à lever le moratoire rapidement. En même temps, ne pas hausser les taxes des citoyens. Moi, ce que j'entends, c'est que lever le moratoire rapidement ou le lever de manière sélective, c'est ce qui est proposé ce soir au Conseil de ville. Bien, une levée sélective du moratoire, ce que ça veut dire, c'est prioriser des dossiers de manière arbitraire de certains promoteurs. Je vois mal de cette manière-là comment ça pourrait se faire de façon réaliste. Donc, de notre côté, on voit le moratoire comme une opportunité en or de revoir notre développement et ça va se faire en collaboration avec nos promoteurs parce que ce seront eux les artisans avec notre direction de l'urbanisme pour revoir le développement de notre ville. Et c'est ce que les citoyens nous demandent de faire.
Benoît Forges-Giasson, conseiller du district de Saint-Rédempteur pour Lévis Force 10. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé ce midi.
Merci à vous.
Merci, au plaisir. C'était Benoît Forges-Giasson. Bon, c'est sûr qu'on défend corps et âme les décisions de Gilles Lehoulier dans le dossier. Mais ce qu'on se rend compte, là, évidemment, c'est que la ville de Lévis s'est fait laisser dans un très mauvais état. Trou budgétaire de 13,9 millions de dollars, dette de 656 millions de dollars. Ça correspond à tout près de 160% du budget de la ville de Lévis. Et là, ce moratoire-là qui pourrait coûter 30 millions en poursuite. Donc, quand on me parle, Pascal, d'une opportunité de faire mieux, on aurait pu décider de faire mieux avant ça.
On aurait dû. Même si on avait la possibilité de décider, il me semble que la voie à prendre, c'était de faire bien et non mieux par la suite. Mais c'est sûr que, bon, j'ai pensé à Mme Isabelle Demers aussi qui se présentait pour reprendre la suite de M. Lehoulier. Ouais. Je ne sais pas si aujourd'hui elle se dit, oh, moi, je l'ai échappé belle.
Ouais, finalement, je suis bien.
Je suis
une grand-maman, là, j'ai des petits-enfants. Puis, savez-vous quoi, ça fait bien mon bonheur.
Parce qu'elle se disait, prête, rappelle-toi, là, sur le site de Lévis Force 10, parce que c'est l'ancien parti de M. Lehoulier. Donc, on parlait à quelqu'un qui fait partie de cette ancienne formation, qui était à la tête de la ville. Elle se disait prête pour un autre mandat afin d'accompagner la population lévisienne à se réaliser pleinement.
Oui, c'est ça. Donc,
Mais M. Blainé en a sur les épaules.
Ben oui.
Comme
puis honnêtement, c'est rare que je dis ça, mais lui, c'est vraiment pas de sa faute. Là. Il se fait laisser devant un fait accompli où il n'y avait pas toutes les informations pour connaître l'ampleur de la situation.
Probablement qu'il répondrait jamais. Oui, il répondrait « Non, je ne regrette rien », comme la chanson de m'être présenté puis de finalement être à la tête de la ville de Lévis. Par contre, je ne sais pas à quel point tu es content de ramasser tout ça. Puis tu sais, c'est peut-être le début de quelque chose aussi. Il y a peut-être plein de choses qui vont sortir des cracks.
Exactement.
Puis là, on réfléchit ensemble à voix haute, mais quand même, pour un homme qui avait déjà été en politique, qui aurait pu se retirer un moment, pour les Lévisiens aussi, c'est pas facile parce qu'on est en train d'être un peu le 10-30 de Montréal, mm-hmm. Mais du côté de Lévis, c'était pas mal ça, c'est le 10-30 de Québec. Oui. On était presque en train de prendre de l'avance dans les prochaines années sur notre développement personnel ici à Québec, dans le sens où ça grouillait. Là.
Ah, exactement.
Là, on a des embûches.
Trouvez-vous que le maire Lehoulier a fait un bon travail? 418-971-1021, oui ou non?
On en jase. Jusqu'à 14h, on en jase.